Mike, wind 25 degrees, 1 3 knots.
Clear.
Green. Descend.
Tu t'apprêtes à écouter le troisième épisode de l'expérience Shiban. Je suis Sébastien et j'espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons Saloua, élève pilote de ligne de la Royal Air Maroc, actuellement en fin de formation à l'ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile Française. Notre invité du jour est encore dans sa vingtaine et vit déjà sa première reconversion professionnelle. En effet, c'est après un début de carrière en tant qu'ingénieur, notamment au Maroc et en Chine, que Saloua a pu saisir l'opportunité de devenir pilote de ligne dans la compagnie nationale de son pays. Notre discussion tournera autour de son ancienne carrière d'ingénieur, de sa reconversion, de sa formation à l'ENAC et des origines de son envie de devenir pilote d'avion. Merci beaucoup Saloua de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à toi.
Je te connais, Saloua, car nous nous sommes croisés pendant quelques mois durant la formation sur le centre de l'ENAC Grenoble, à Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre, même plus précisément. Tu venais de commencer ta formation en vol, donc en vol à vue sur TB20, et moi j'étais à l'époque en vol aux instruments. Tu es une jeune femme déterminée et tu as un parcours un petit peu atypique qui saura intéresser, je pense, je l'espère, notre auditeur ou notre auditrice. Comme on le disait en introduction, tu t'es d'abord orienté vers une carrière d'ingénieur avant de passer le concours cadet pour devenir pilote pour la Royal Air Maroc. Aujourd'hui, tu viens de réussir ton test IRME, donc de vol aux instruments sur avion multimoteur, qui conclut ta formation en vol à l'ENAC. Et félicitations d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ton cursus jusqu'à aujourd'hui, des différentes étapes de ta jeune carrière où tu as déjà vécu une, même peut-être deux reconversions professionnelles ?
Tout à fait. Bah moi, comme tu l'as dit plus tôt, j'ai un parcours assez atypique, contrairement à la majorité des personnes qu'on peut retrouver à l'ENAC, qui ont peut-être rêvé d'être pilote depuis leur plus jeune âge. Moi, je me plais à dire que c'est plutôt un rêve d'adulte. Pourquoi ? Bah en fait, comme au Maroc, l'aviation générale n'est pas assez développée, donc c'est pas vraiment une passion que les petits-enfants développent, on va dire, de manière facile. Enfin, c'est pas très accessible au Maroc de s'inscrire dans des aéroclubs et puis de voler pour le plaisir, ça d'une part. Et puis d'autre part, l'école nationale de pilotage a fermé après la crise de 2007. Donc moi j'ai eu mon bac en 2009, donc c'était pas vraiment une possibilité. Donc à l'époque, quand on est bon en maths, ben on te dit voilà, tu fais ingénieur, et c'est un peu la continuité logique d'un lycée maths, spécialité maths. Chez nous, on a une spécialité qu'on appelle sciences maths. Et puis donc, voilà, on ne se pose pas trop de questions. Donc, tu es bon en maths, physique, donc tu fais ingénierie. Et puis, comme je dis, comme il n'y a pas vraiment cette culture d'aviation, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui se projettent dans ce métier-là. Et a fortiori des femmes, donc il y a encore moins de pilotes femmes. Et en termes de représentation, tu sais, c'est quelque chose qui compte énormément quand tu es petit enfant.
D'avoir des exemples, en fait, des gens à qui on peut s'identifier.
Exactement. Donc moi, j'avais personne dans mon entourage, dans ma famille, qui était pilote. Donc c'est vraiment un métier que j'appréhendais de loin, à la télé, via les médias, les films, etc. C'est vrai que c'est un métier qui me fascinait, comme tout le monde d'ailleurs, c'est vraiment un métier de prestige, mais je me suis jamais dit c'est possible. Donc je me suis plutôt dirigée vers une carrière classique d'ingénierie. Donc j'ai fait ingénierie dans une école sur 5 ans, dans ma ville natale, Oujda, au Maroc. Après les 2 années de prépa dans la même école, donc j'ai fait un génie industriel, donc où on avait le choix On pouvait se spécialiser en mécanique ou en industrie, production, logistique. Et moi, je m'intéressais surtout au côté logistique parce que j'avais cet attrait-là pour tout ce qui était international. Et j'entendais dire, oui, il y a la logistique, voilà, ça te permet de gérer des flux, qu'on peut travailler dans des multinationales et avoir plein de déplacements. Et c'est ce côté-là, moi, qui m'intéressait. Voilà, en fait. Tu sais, quand t'es jeune, je sais pas pour vous en France, mais au Maroc, il y a vraiment cette pression-là d'avoir son bac rapidement et puis ensuite de faire son école rapidement, de savoir ce que tu veux faire et d'enchaîner. Il y a pas vraiment de temps de latence. Alors qu'en fait, toi, t'es jeune, si t'as la chance d'avoir des exemples autour de toi, bah... tu peux être conseillé et tu peux savoir plus ou moins ce que tu veux, mais sinon, tu tentes, tu essayes, tu dis « Ok, bah, je suis bon en maths, je vais faire ingénierie, puis on verra. Et puis pour la spécialité, je verrai en école, etc. » Donc, en fait, au fur et à mesure de tes années scolaires, bah, tu échanges avec peut-être des gens qui te devancent en formation ou bien lors de tes stages. Tu commences un peu à toucher du doigt le terrain. Et puis, à partir de là, tu commences à tester. Donc, je pense que moi, c'était plutôt ça. J'avais pas non plus une idée très claire de ce que c'était que le génie industriel ou bien en quoi ça allait consister au jour le jour un métier dans ce domaine-là. Mais je me suis dit, je vais tester. Voilà. Et pendant ce cursus-là d'ingénierie, j'ai pu faire quelques expériences à l'étranger, puisque c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéressait le plus. Mon premier voyage à l'étranger, c'était un voyage en tant que bénévole en Inde. Et c'est un voyage qui m'a vraiment changé, qui a changé ma façon de voir les choses. Ma façon de penser, parce que...
C'était un stage pendant ton école d'ingénieur,
oui ? Oui, c'était un stage que j'ai fait en plus. Je n'étais pas obligée de faire un stage de bénévolat, mais j'avais pas mal... disons que je faisais pas mal de travaux associatifs dans ma ville, et puis j'avais aussi cette envie-là de découvrir un autre pays qui soit vraiment... très très loin pour découvrir une nouvelle culture et tout. Et puis j'aimais bien les films Bollywood. Après, c'était vraiment une partie minime par rapport à toute la culture que j'ai pu découvrir par la suite. Et ce voyage-là, en fait, il m'a permis de m'ouvrir à non seulement la culture indienne, du coup, mais aussi à la culture de plein d'autres bénévoles que j'ai rencontrés sur le tas. Et puis, du coup, je me suis dit, c'est vraiment génial, le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa culture, de devoir vraiment aller vers l'autre et de s'adapter. Cet état d'esprit-là m'a beaucoup plu. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve mes prochains stages à l'étranger. J'ai pas envie de tout faire au Maroc. Et donc, au retour, donc c'était ma dernière année en école d'ingé, j'ai cherché vraiment pendant plusieurs mois un stage et j'ai fini par le trouver en Chine. Et là, pour le coup, c'était un stage professionnel, c'était mon stage de fin d'études d'ingénierie.
D'accord. Un stage de 6 mois donc en Chine, où ça en Chine ?
À Zhuhai, c'est à côté de c'est collé à Macao, entre Macao et Hong Kong, dans le sud de la Chine, dans la province de Guangdong. C'est vraiment le cœur industriel de la Chine. Puis du coup déjà la Chine en tant que telle, c'est l'usine mondiale, et encore au sud, c'est encore plus prononcé. Donc c'était super intéressant, vu que moi, je venais d'un background industriel, de voir, en fait, que tout se fabriquait là-bas. Par exemple, là, pour le coup, j'étais dans une entreprise américaine qui faisait de l'outsourcing, donc qui prenait des commandes international d'Europe, des États-Unis, d'Australie, et puis qui cherchait des sous-traitants au niveau de la Chine. Et elle servait aussi de bureau d'études, donc elle garantissait la qualité des produits. Donc il y avait des ingénieurs qui travaillaient dans cette entreprise-là, qui allaient faire des visites sur site pour voir comment les processus fonctionnaient, les taux de rebut, etc. Et puis quand un produit marchait particulièrement bien, cette entreprise-là décidait de monter sa propre usine. Et c'était le cas pour l'usine où moi j'ai travaillé. C'était en fait une usine qui fabriquait des wine racks, des sortes d'étagères en acier pour les caves à vin. Et donc moi je travaillais sur cette ligne de production-là et j'avais comme projet le lean management de cette ligne de production. Donc en gros, c'était appliquer des processus Kaizen pour réduire les rebuts, pour gagner en lead time, en temps de fabrication. Voilà, c'était en quelque sorte un projet d'optimisation de l'usine.
D'accord, et c'est donc un métier purement d'ingénieur qui avait à ce moment-là encore rien à voir avec l'aéronautique, avec ce...
Oui, oui, carrément.
Tu prévois de faire pour la suite.
Oui, carrément. C'était purement ingénierie, purement production. Et à l'époque, justement, c'était la première fois que je me retrouvais dans un endroit où ça bouillonnait vraiment d'idées de business. C'est-à-dire que cette entreprise-là travaillait avec un certain mindset de start-up. Donc, ils étaient tout le temps... en recherche de nouvelles opportunités. Et puis, du côté de Hong Kong, il y a énormément d'opportunités de business. Il y a beaucoup d'expats, beaucoup de gens qui viennent pour chercher des opportunités, pour lancer leurs propres affaires. C'était assez intéressant. Et puis, voilà, ça parlait de commerce, ça parlait d'export, d'import. Et puis, il y avait ce côté-là qui me faisait défaut dans ma formation d'ingénierie, qui était une formation purement technique. Je me disais, ouais, franchement, ça a l'air super intéressant. J'ai envie de, pourquoi pas, peut-être monter ma propre affaire ou comprendre comment ça se passe. Et de là est venue l'idée de compléter ma formation avec un master en école de commerce. Donc, j'ai fait un peu mes recherches et puis, au Maroc, on a des liens assez étroits avec la France, ben, on est assez familiarisé avec les écoles françaises. Et mon choix s'est porté sur l'ESSEC, où j'ai postulé pour le master spécialisé de stratégie et management de business international. Parce qu'une chose est sûre, pour moi, c'était qu'il fallait que je reste dans l'international, là où je peux voyager au maximum, rencontrer des personnes de backgrounds différents. Donc, j'ai fait ça. J'ai enchaîné tout de suite après ce stage-là avec l'ESSEC à Paris. Et donc, c'était une formation sur un an et demi à peu près, avec une thèse professionnelle à la fin, sur 6 mois, que j'ai effectuée chez Orange, à Paris. C'était franchement une expérience très épanouissante, dans le sens où ça t'ouvre vraiment l'esprit et ça t'ouvre le champ des possibilités. Et en école d'ingé, on est plutôt en mode exécutant. Donc voilà, c'est très carré, on exécute et on est plus dans l'esprit salarial et pas entrepreneurial. Alors que l'école de commerce t'apprend que tout est possible, en fait. Si t'as envie de lancer une affaire, tu peux. On t'apprend comment pitcher ton idée, comment convaincre des gens, comment vendre des concepts, comment inventer des concepts de zéro. C'était vraiment quelque chose à laquelle j'étais pas forcément familiarisée, parce que avant, donc on me donnait, je dis n'importe quoi, des protocoles à appliquer et basta. Alors que En école de commerce, ben, c'est à toi de créer ton avenir, quelque part.
D'accord. Et donc, au final, l'école de commerce t'a un petit peu ouvert l'esprit par rapport à un métier très technique, qui est le métier d'ingénieur. Et ensuite, tu t'es finalement retourné un petit peu vers un métier très technique d'application de procédures, le métier de pilote. Quand est-ce que ça t'est venu, cette idée-là? Est-ce que t'as travaillé après ton école de commerce, ou est-ce que directement tu as fait le concours de la Royal Air Maroc?
Alors oui, j'ai travaillé pendant 3 ans après mon école de commerce en tant que consultante chez PwC, PricewaterhouseCoopers. Et là encore, ben, j'ai cherché à intégrer une équipe qui travaillait principalement sur des problématiques transverses entre plusieurs pays d'Afrique. Justement, j'avais pas envie de rester dans un seul pays, avoir un boulot traditionnel avec un bureau fixe, etc. Et donc, dans cette équipe-là, on travaillait avec principalement avec des institutions financières. Donc, on travaillait sur les problématiques de gestion de risque. Donc là, il y avait quelque part une intersection un peu entre ce que j'ai pu apprendre en école d'ingé et en école de commerce. C'est-à-dire que c'était assez rigoureux dans le sens où on appliquait des procédures et des protocoles des banques centrales nationales des différents pays. Donc il fallait être très rigoureux. Et en même temps, bah, il y avait tout ce côté managérial. Comment gérer un client qui a des exigences très élevées parfois, qui ne sont pas en accord avec ce dont le partenaire, le management, ce dont ils ont convenu, etc. Comment ménager les sensibilités de chacun, et puis aussi surtout quand il y a cet aspect culturel qui vient s'ajouter, des clients qui viennent de pays différents et qui ont des façons de travailler qui sont différentes. Il y a ce côté-là, et puis le côté de travailler en groupe aussi. Avant, quand j'étais ingénieure, je travaillais souvent dans des usines. J'avais en fait mon poste de travail avec ma fiche de poste, ce que je devais faire, et il y avait moins de travail en groupe, si je puis dire. Donc après cette expérience là au bout de 3 ans à peu près, je me suis rendu compte que quelque part ce qui m'intéressait dans ce job là c'est vraiment cette composante de voyage, cette soif de changer d'environnement assez souvent.
De ce que tu dis là, depuis le début, ce qui t'intéresse vraiment, c'est l'international, le fait de travailler en groupe, de gérer un petit peu une équipe, mais aussi un petit peu l'aspect technique de par ton background d'ingénieur. Ça, au final, ça commence à faire un peu sens pour moi, cette reconversion vers le métier de pilote, justement.
Ouais.
Parce que ce sont des qualités, ou en tout cas des besoins qu'on a pour devenir pilote. Et du coup, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire cette reconversion, alors que tu avais l'air bien parti en fait dans ta vie d'ingénieur, ou plutôt de manager, je sais pas trop comment tu veux appeler ça.
J'étais consultante en management et j'essayais un peu d'allier les deux, quoi.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter cette carrière qui avait l'air quand même assez confortable et avec de belles perspectives d'avenir, apparemment?
Oui, ce qui m'intéressait le plus, comme je t'ai dit, c'était le côté international, voyage et... le fait de sortir de ma zone de confort à chaque fois. Et vers la fin de ces 3 années-là, j'ai eu une mission qui s'est un peu éternisée chez un client. Et donc, je commençais un peu à m'ennuyer. Ça devenait un peu redondant. Et moi, j'ai vraiment besoin de sortir de ma zone de confort de temps en temps. Et puis à ce moment-là, j'ai eu vent que la Royal Air Maroc avait ouvert le concours justement pour recruter des élèves pilotes en partenariat avec l'ENAC. C'est quelque chose qui était tout à fait nouvelle, puisque comme je t'avais dit avant, l'école nationale avait fermé. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas moyen d'être pilote au Maroc. Enfin, si on est marocain, il n'y a pas moyen, à moins que qu'on soit super riche et qu'on se paye sa formation soi-même ailleurs, aux États-Unis ou dans un autre pays. Et là, en fait, c'était comme une opportunité en or parce que il y avait cette configuration-là qui permettait aux gens recrutés de prendre un crédit garanti par la compagnie aérienne. Parce que moi, toute seule, si je partais à la banque, jamais on me donnerait 200 000 euros de crédit comme ça.
200 000 euros, du coup, le coût de la formation.
Ouais.
D'accord.
Ouais, donc c'était assez inespéré comme opportunité de trouver un organisme comme la Maroc qui se porte garant. Donc je me suis dit, franchement, il faut tenter, pourquoi pas. Et au début, j'y croyais pas vraiment parce que j'étais assez rouillée en mathématiques. Ça faisait un bon moment que j'avais pas, dans mon travail de tous les jours, on faisait pas les deux avions qui se croisent, machin. C'est genre, et puis même la mécanique, tout ça, ça datait pour moi des années d'école d'ingénierie. Et donc, j'appréhendais pas mal. Je me disais, bon, franchement, je sais pas si t'as des chances. Ça fait longtemps que t'as pas fait tout ça. Mais si tu tentes pas, tu vas le regretter.
Et donc, il y avait des épreuves de mathématiques, c'est ça, pour comment se passait la sélection?
Ouais, en fait, il y avait une sélection, un test écrit où il y avait un test mathématique, un test de raisonnement mécanique et un test anglais. Et après ce test écrit-là, si ça se passe bien, on t'appelle pour les tests psychotechniques. Et après les psychotechniques, les oraux avec les psychologues, les commandants de la Royal Air Maroc, etc.
D'accord.
Voilà. Et donc, j'avais un ami qui avait un cousin qui avait fait cette formation-là. Et donc, je l'appelle et je lui dis comment ça se passe concrètement, quel genre de questions tu as eues. Donc, il m'a bien briefé. Et puis, il m'a parlé de pilotest, des tests psychotechniques. Donc, j'avais réussi à amasser pas mal d'informations. Et je me suis dit, bon, OK, donc j'ai à peu près un mois avant le concours. Donc, je vais vraiment tout donner. Comme ça, je regrette rien. Si ça le fait, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. J'aurais au moins tenté. Et donc, au début, donc, comme je te disais, ça, c'était un peu une idée... De dire je tente sans vraiment trop y croire, mais au fur et à mesure que je commençais à préparer le concours, c'est devenu un challenge et je me suis dit ce concours là il faut absolument que je l'aie, et puis plus tu passes de temps plus tu te dis ça serait vraiment bête que tout ce temps là parte en fumée si je l'ai pas. Donc on va dire que avec la préparation du concours, la motivation a grandi de plus en plus et ça devenait vraiment la chose que je voulais faire plus que tout. Et c'était assez difficile justement à cette époque-là parce que je travaillais en même temps, j'avais des déplacements au Togo, au Sénégal et j'avais des clients qui avaient certaines on devait leur rendre des livrables, et j'avais des managers qui me relançaient à chaque fois, donc c'était assez compliqué pour trouver du temps. Du coup, je me souviens, je cherchais des applications sur mon téléphone pour m'entraîner en calcul mental, donc je faisais ça quand j'étais aux toilettes ou dans les pauses déj, j'essayais d'optimiser au max. Et bref, donc un mois plus tard, donc je passe le concours et là je suis prise. Et je me dis oh c'est génial, c'est trop cool. Après c'est les psychotechniques et c'était un peu comme un rêve quelque part. Je me dis mais c'est pas possible. Mais en fait, au fur et à mesure que je passais les étapes, je me disais mais en fait,
je risque d'y arriver.
Ouais, c'est ça.
Comme ça.
C'est ça. Et au début, les gens ils me disaient mais tu vas vraiment le faire ou c'est juste un challenge que tu t'es donné. Et moi, franchement, à ce moment-là, je me dis, mais bien sûr que je vais le faire. C'est pas pour rien que je fais tout ça. C'est pas pour, c'est pas pour rien. Et mes parents, surtout, enfin, ils étaient un peu, J'étais un peu surpris parce que, bah, tu sais, c'est, pour une fois, bah, j'avais réussi quelque chose de stable. Donc, j'avais mon boulot qui était stable, mon appart à Casablanca. Donc, une perspective, voilà, assez stable. Et je pense que tous les parents, bah, rêvent quelque part que leur enfant puisse avoir un boulot stable, épanouissant, etc. Et là, d'un coup, je leur dis, en fait, vous savez quoi? Bah, tout ce que j'ai fait,
je recommence à zéro.
Et puis il y avait aussi tout cet aspect-là de est-ce que en tant que femme ça peut le faire si j'ai envie plus tard de fonder une famille, est-ce que c'est compatible, parce que comme je t'ai dit j'avais aucun exemple féminin autour de moi, donc on se pose pas mal de questions. Bon, après sur le coup je me suis dit tout ça je vais voir après si jamais je suis acceptée, donc pour l'instant je vais travailler au maximum pour avoir le concours et on verra ensuite. Et après, ben, quand j'ai été prise, je pense que j'avais déjà la réponse quelque part, que c'est ce que je voulais faire. J'ai pas travaillé pour ce concours pour rien finalement. Et puis j'ai cherché à parler à des pilotes pour avoir un peu leur son de cloche de comment ils vivent l'expérience de pilote de ligne et s'ils connaissaient des pilotes femmes, comment elles font pour concilier leur vie privée avec les rotations. On sait très bien que la vie de pilote de ligne n'est pas du tout stable selon si tu fais du moyen courrier ou long courrier, etc. Et puis ben on m'a les pilotes à qui j'ai parlé m'ont beaucoup rassurée. Ils m'ont dit que j'ai pas eu la chance de parler directement à une pilote femme, mais ils m'ont dit que les pilotes femmes avec qui ils avaient volé étaient très épanouies et que ça se passait très bien pour elles, donc c'était assez rassurant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à Instagram. Et du coup, j'avais trouvé pas mal de comptes Instagram de pilotes de ligne femmes. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, parce que moi, qui n'avais pas de représentation, bah, tout à coup, t'as toute une communauté, en fait, de pilotes qui partagent leur vie de tous les jours. Et tu peux te projeter,
C'est la différence, en fait, entre savoir que ça existe et vraiment avoir des preuves, voir comment ça se passe dans le détail.
Ah oui,
pour
mais
savoir
ça.
Savoir si ça sera quelque chose pour toi ou pas, quoi.
Grave, ça change tout. Franchement, la représentation est quelque chose de super important parce que d'un côté, ça forge l'imaginaire que tu te fais de la chose, du métier. Et puis d'un autre, ben, ça impacte directement les objectifs que tu te donnes dans ta vie. Si tu vois pas que c'est quelque chose de faisable en face de toi, ben, quelque part, c'est difficile de rêver de ça.
Bah écoute, c'est très intéressant de voir ton cursus, ce qui t'a amené en fait à devenir pilote ou pas encore, à intégrer l'ENAC pour la formation. Et j'aimerais bien du coup qu'on parle maintenant de la formation ENAC, si ça te va. Alors la formation est divisée en plusieurs parties, une partie théorique, une partie pratique. Tu pourras nous expliquer un petit peu les différentes étapes. Et ce que j'aimerais aussi beaucoup savoir, c'est quel a été ton ressenti de la formation. Alors, je vais parler pour moi. Il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des moments où c'est du pur bonheur, on adore aller voler. Il y a des moments où on a plus un peu la boule au ventre. Est-ce que tu as vécu ces deux types de moments? Comment tu as géré et les moments faciles et les moments difficiles? Je serais curieux de savoir comment tu l'as vécu.
Bah, comme tu sais, on commence tous par une formation théorique. Pour mon cas, c'est une formation qui s'est déroulée sur 8 mois au Maroc, au campus de Rabat. Et c'était une phase assez difficile parce que c'était une première au Maroc. Donc, on avait fait les examens avec l'autorité anglaise, contrairement aux anciens élèves de l'ENAC marocains qui avaient fait leur test avec la DGAC française. Et du coup, en fait, la façon de poser les questions était un peu différente, hein, et on n'a pas forcément été briefé sur ça. Donc, c'était un peu compliqué au tout début. Il y avait cet élément de surprise. C'est-à-dire que, pour donner une idée, je pense que pour les examens normaux en France, c'est un QCM. Et pour la CA UK, c'est un type-in. Tu dois écrire tes valeurs toi-même. Donc, c'est un peu plus challengeant. Et puis, les banques de questions avec lesquelles on s'entraînait n'étaient pas forcément pertinentes. En plein milieu, on a dû changer pour Bristol. Avant, on travaillait avec Aviation Exam, mais c'est avéré que c'était pas très pertinent par rapport aux questions qu'on avait eues. Donc, on a switché au beau milieu des 8 mois, là.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la licence de pilote de ligne théorique se passe avec des examens QCM, de type QCM, ou alors avec des questions dont on doit taper nous-mêmes les réponses, comme ce que tu disais. Et il y a des banques de questions pour s'entraîner. Donc, en fait, on fait tout un tas de questions pour voir à quoi elles ressemblent. Et ensuite, on va à l'examen et normalement, on en retrouve une partie. C'est ça qui rend la chose un peu plus facile. Et donc, ce que tu dis, c'est que pour toi, c'était pas vraiment le cas au final.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à s'entraîner avec une banque de questions qui était un peu en décalage avec ce qu'on a trouvé en réalité pendant les tests. Mais au-delà des questions qui se répètent, c'est aussi certains chapitres qui sont plus approfondis dans les bouquins d'Oxford que dans les bouquins français, par exemple. Voilà. Mais bon, grosso modo, ça s'est bien passé. Après, c'est assez intense quand même, parce que, voilà, comme tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu mets les bouchées doubles et tu essaies d'étudier avec les bouquins d'Oxford, avec les bouquins de l'ENAC. Enfin, tu essaies de trouver tout ce qui peut t'aider finalement, parce que ça, quand t'as une expérience un peu qui te montre que ce que t'as révisé, c'est pas forcément ça. Du coup, tu fais plus confiance et tu commences à... Le champ des possibilités devient beaucoup plus large. Et du coup, on a que 24 heures par jour et c'est pas suffisant. Et il y avait pas beaucoup de batch pour refaire au cas où. Donc, il y avait une pression supplémentaire. Voilà. Donc, moi, je retiens que c'était une période assez intense où... on avait mis complètement notre vie sociale de côté.
Donc pendant 8 mois à Rabat au Maroc, c'est ça ?
Oui, c'est
ça. Et à l'issue de ça, tu as eu donc tes licences de pilote de ligne théorique qui t'ont permis de commencer la formation en vol ?
Oui, ça c'était super excitant parce que on avait pour la plupart, tout le monde, hein, je pense qu'on n'avait jamais volé avant au Maroc. Et donc c'était de l'ordre du théorique jusque-là. Et c'était super. On était tous super excités de commencer enfin à toucher un peu concrètement ce que c'était. Et on avait très hâte. Et puis aussi la perspective de commencer à Grenoble, où t'as les Alpes, des paysages magnifiques.
Donc tu as commencé ta formation vol à Grenoble sur TB20 à l'ENAC. Et donc tu commences par une phase de vol à vue. Et ensuite, il y a une phase aux instruments. Tu as fait ces deux phases-là au même endroit ?
Non, j'ai fait que le VFR à Grenoble. Et ensuite, le vol aux instruments, je l'ai fait à Carcassonne. Et puis, l'IRME à Saint-Tien. Donc, j'ai vu du pays.
Voilà, donc tu as fait 300 ENAC, dont Saint-Tien, la Mecque.
Exact.
Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des moments qui sont plus agréables que d'autres,
ouais.
Parce que bon, on a beau aimer voler, on n'y va pas toujours forcément avec beaucoup de plaisir, notamment quand il y a des tests ou quand il y a des vols où on a un peu de pression. Est-ce que tu as vécu ces deux types de moments, ces moments de pur bonheur et en même temps ces moments de grand stress, et comment t'as suggéré finalement les moments les plus intéressants et qui sont les moments de stress,
ouais.
Parce que dans un moment de bonheur, bon, il faut juste en profiter, quoi.
Ouais, ouais. Bah oui, je pense que comme tous les stagiaires, j'ai vécu les deux moments, les moments de stress et les moments de pur bonheur. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui te fait tenir quand c'est difficile. Je pense que le premier jalon, le jalon le plus important, c'est le solo au début. Ça, il y a énormément de pression autour de ce vol-là. Au bout de combien d'heures est-ce que le stagiaire est lâché? Et puis, est-ce que tu as besoin de compléments ou pas? Puis, au tout début, l'idée de complément est assez taboue, tu vois, parmi les stagiaires. Puisque, enfin, on arrive un peu, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et moi, je me souviens, pour ma part, on avait commencé les cours d'atterrissage en vue du solo et ça marchait pas du tout pour moi. Genre, à chaque fois, je refusais le sol. J'avais l'impression que j'allais me cracher. Je pense, trois séances avant le solo, je savais toujours pas atterrir. Et puis, deux séances avant l'heure à laquelle on devait être lâché, notre instructeur est venu, il nous a dit « Écoutez, la prochaine séance, il faut que vos vols soient nickel pour que je puisse vous lâcher. Sinon, je vais vous demander du complément à la compagnie. » Voilà. Et là, je pense que tout le monde a eu ce petit coup de stress. Le lendemain, le vol qui devait être nickel, je sais pas comment ça se fait, mais genre j'ai fait sept tours de piste, nickel, où j'ai atterri moi-même. Jusqu'à maintenant, et même mon instructeur, il a pas compris comment. Mais je pense qu'il y a eu ce déclic. J'avais parlé aussi à d'autres pilotes, ils me disaient ouais, franchement, parce que au début tu te dis mais comment vous faites pour l'arrondi, à quel moment vous tirez, de combien, et tu te dis mais en fait on peut pas te dire, c'est quelque chose, c'est du feeling,
vélo, c'est du feeling. Faire, et après au bout d'un moment on sait faire.
Exactement. Et nous on essayait de regarder des vidéos sur YouTube, mais enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression que on peut pas enseigner vraiment l'arrondi, tout ça. Bon, tu peux essayer théoriquement, mais c'est vraiment un déclic qui s'opère à un moment. Et j'ai eu ce déclic-là pile au moment où il fallait. Et donc, j'avais fait ces 7 tours de piste qui étaient nickel, où j'ai atterri toute seule. Et l'instructeur, il n'en revenait pas. Il a dit, c'est cool, super, c'est bon, je te lâche ce soir. Du coup, j'avais fait le deuxième vol, mon solo, le jour même, et c'était à la fin de la journée. C'était au coucher du soleil, et c'était magnifique. C'était trop beau.
Un de ces moments qui nous fait dire, on aime ça, en fait.
Ah oui, carrément. Ouais.
Donc avec le pseudo après, forcément, le pseudo du premier solo.
la tradition, voilà, Water la tradition. Salute. Ouais, et je pense que après le solo, il y a quelque chose qui s'opère. Tu te dis, en fait, j'ai pris les clés, j'ai démarré, je me suis envolée toute seule et je suis revenue saine et sauve. Et l'avion a servi derrière, donc mission accomplie.
C'est un super atterrissage, et l'avion peut repartir après, en fait.
C'est ça.
Non, c'est intéressant.
Ça fait partie justement des moments de pur bonheur dont tu parlais. Il y en a eu plein d'autres. Hein. Le fait d'être au-dessus des nuages. Être au-dessus des nuages, pas trop à Grenoble, puisque on devrait quand même rester à vue. Mais la phase IRSE a été magnifique, où on faisait du cloud surfing.
Donc on voit les instruments à Carcassonne.
Oui, c'est beau. Et à Grenoble, je me souviens, du côté du Versou, c'était aussi très beau, à côté des montagnes. Je sais pas, c'est cette impression de liberté que tu as quand tu es vraiment au-dessus de tout et que tu vois... Les gens tout petits en bas
qui vivent leur vie
c'est ça,
comme dans un jeu vidéo un petit peu.
Après quand tu commences à les voir de trop près, c'est pas bon signe, mais
normalement non, vaut mieux pas, bon. Et donc est-ce que, alors je suis assez curieux de savoir si tu Si tu avais des a priori avant de commencer la formation en vol, sur ce que c'était le vol, sur ce que c'était le métier de pilote, et est-ce que ces a priori se sont confirmés ou pas, en fonction de ce que tu sais maintenant? Alors, tout comme moi, tu n'es pas encore pilote de ligne à proprement parler, mais tu commences de plus en plus à savoir en fait ce que sera le métier plus tard. Qu'est-ce qui a changé pendant la formation en vol, s'il y a quelque chose qui a changé?
Honnêtement, l'idée que je me faisais du pilote, elle était assez... comment dire, bon, c'était déjà des idées de pilote de ligne, enfin, ce que je voyais dans les films, etc. Donc, c'est assez différent de l'aviation qu'on fait dans le cadre de l'école, dans des avions légers. C'est très différent même. Y a beaucoup moins d'automatisme. On regarde plus dehors, tu vois. Et puis, on est en monopilote. Tu vois, l'image que je me faisais, c'était d'un équipage surtout, d'un travail à deux. Alors qu'en formation, ben, on fait tout soi-même. J'avais pas non plus toute cette idée de préparation qu'il faut en amont, avant un vol. Surtout les navigations, donc on va dire c'est une partie assez cachée, parce que ce qu'on voit, nous, c'est la partie romancée, le pilote est dans les airs, tout se passe bien, c'est beau, il y a des nuages, des paysages et tout, mais en fait, derrière, c'est beaucoup de travail, il faut vraiment bien préparer, visualiser le vol, essayer de voir s'il y a des zones militaires, si elles sont actives ou pas, par où il faut passer, les fréquences avec qui parler, c'est-à-dire que tout cet aspect-là technique, on le voit pas finalement quand on se fait cette image avant de rentrer dans le métier ou dans la formation.
Et est-ce que cet aspect technique t'intéresse autant que ce à quoi tu t'attendais? Est-ce qu'il y en a plus que prévu et au final c'est un peu rebutant, ou c'est quelque chose qui te plaît et que tu arrives à appréhender assez facilement, notamment de par ta formation d'ingénieur?
Ah non, ça me rebute pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est assez rassurant de se dire que si jamais quelque chose se passe mal, ben je peux assurer mes arrières en allant sur ce terrain de dégagement, parce que j'ai vu en amont qu'il était ouvert, qu'il y a de l'avgaz, que, je sais pas moi, le DME là-bas, il marche. Enfin, moi, ça me rassure de savoir ce qui m'entoure dans les airs et de pas, enfin, juste voler comme ça. Et puis même le côté procédural, je pense que c'est très important, parce que quand il y a des pannes, et j'en ai eu des pannes, là pour le coup il faut pas improviser, il faut faire confiance à ce que les pilotes d'essai ont établi comme procédure pour que tout se passe bien. Et toi, finalement, tu appliques les procédures et tu fais ton taf et tu fais ton travail. Et puis, normalement, ça se passe bien derrière. C'est ce qui fait que ça se passe bien derrière, parce que c'est finalement un travail d'équipe. Il y a des gens en amont qui ont bien pensé la chose. Ils ont pensé à des éventualités que toi, sous l'effet du stress du moment, tu peux pas penser à certaines choses. Donc, tu fais confiance aux gens qui ont pensé les procédures avant toi et tu les appliques et normalement, ça se passe bien.
C'est pas un métier d'artiste, en fait. C'est pas un métier de créatif. On applique des procédures, non. On y réfléchit un peu à l'avance.
Non, et c'est tant mieux.
C'est tant mieux, d'accord. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais dans le tout début de cette discussion. Tu disais que c'était pas vraiment un rêve d'enfant pour toi de devenir pilote, mais plutôt un rêve d'adulte.
Ouais.
Donc, je suppose que tu as candidaté à la RAM et tu as peut-être même commencé la formation sans cette passion vraiment pour l'aéronautique. Est-ce que tu es passionné aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu du coup en cours de route? Et comment ça s'est manifesté un petit peu pour toi?
Comme je t'ai dit, moi en fait, ce qui me passionnait, c'est vraiment le lifestyle du pilote.
Le style de vie.
Voilà, c'est comme le fait de voyager, le fait de rencontrer des personnes de cultures différentes, d'échanger. C'est ce côté-là qui m'avait intéressé en premier lieu dans le métier de pilote. Ensuite, en commençant la formation, c'était un pari, hein. Franchement, j'avais pas la certitude que j'allais particulièrement apprécier le fait de voler. Il y a plein de gens qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux d'être dans les airs en 3D. Heureusement pour moi, ça a tout de suite, j'ai tout de suite accroché. J'ai pas eu de soucis de ce côté-là. J'ai appris à apprécier les vols au fur et à mesure de ma formation. Et puis, comme tu as dit, en fait, plus ça se passe bien et plus tu prends du plaisir. Et voilà. Après, tu es tout le temps sous stress avec des tests, des examens. Eh ben, peut-être qu'il y a moins d'occasions pour vraiment profiter du vol en tant que tel.
Donc, c'est aujourd'hui, tu pourrais dire que tu es passionné d'aéronautique et c'est venu pendant la formation à l'ENAC, en fait.
Oui, carrément.
D'accord.
Carrément.
Alors, bah, ça aide en même temps d'être sur d'aussi belles machines, de commencer à Grenoble. Ça crée forcément un attrait pour ce qu'on fait, en tout cas, si on aime être en 3D, comme tu dis, être un petit peu en l'air. C'est quelque chose d'assez sympa. Je voudrais parler un petit peu de l'aviation au Maroc. Alors, tu n'as peut-être pas beaucoup de connaissances là-dessus, dans le sens où tu ne faisais pas forcément d'aviation générale au Maroc, de petits avions, c'est-à-dire. Mais est-ce que comparé à la France, par exemple, c'est quelque chose d'assez connu ? Tu disais tout à l'heure au Maroc que c'était quelque chose qui était assez peu connu. Est-ce qu'il y a quand même des structures où on peut apprendre à voler ? Est-ce qu'il existe quand même des aéroclubs ? Et si oui, est-ce que plus tard, tu as envie de faire de l'aéroclub en parallèle de la ligne, par exemple ?
Oui, je me suis renseignée d'ailleurs. Là, j'ai vu qu'il y avait des aéroclubs à Rabat, à Marrakech. Moi, je serai vraisemblablement basée à Casablanca. C'est là où il y a le hub de la Royal Air Maroc. Donc, Rabat et Marrakech, c'est pas bien loin. Après, ils n'ont pas énormément d'avions. Ils ont des DR-400. C'est déjà pas mal, hein. Mais ce qui est embêtant, c'est que contrairement à la France, on peut pas voler comme on veut. C'est des routes bien définies. Il faut report à chaque fois au contrôleur. Voilà. C'est ce côté-là. Ben, j'ai l'impression que ça va être un peu bridé par rapport à l'expérience française. Mais c'est toujours ça, hein.
Donc c'est quelque chose que t'aimerais faire quand même plus tard, de faire de l'aviation à côté.
Ah oui, carrément. Ouais, non, carrément. C'est sûr.
Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Au final, pas mal de pilotes de ligne ne font que leur métier. Ça leur suffit en fait en termes de vol. Ils ont pas forcément envie de faire du plus petit avion. C'est du vol totalement différent. Toi, c'est quelque chose qui t'a tellement attiré pendant l'ENAC que t'as envie de le refaire après.
Bah en fait, moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est les sensations. Hein. Et on sent beaucoup plus de choses que lorsqu'on est dans un avion de ligne. Après, ça dépend de ce qui intéresse chacun. C'est très automatisé, comme tu sais, dans les Boeing, etc. Donc, ça dépend de ce qu'on aime. Je pense qu'en termes de pilotage pur, c'est quand même intéressant de voler de temps à autre dans des petits avions pour pas perdre la main. Et puis aussi pour les sensations qui sont différentes, totalement différentes.
C'est pas moi qui vais te contredire. Tu disais que, bon, on est tous les deux d'accord pour dire que le besoin d'avoir un rôle modèle, ce que tu disais tout à l'heure, quelqu'un à qui on peut s'identifier, en fait, est assez important. Est-ce que tu comptes, toi, à partir de maintenant ou dans quelques mois ou quelques années, quand tu seras pilote de ligne, devenir un petit peu un exemple, essayer de devenir un exemple pour d'autres Marocains, par exemple, ou même plus spécifiquement des femmes marocaines? C'est quelque chose qui te tiendrait à cœur?
Oui, totalement. D'ailleurs, comme je t'ai dit, j'ai été énormément inspirée par beaucoup de pilotes femmes sur Instagram. Je suis énormément de pages dans ce sens-là, qui, dans les moments les plus difficiles de formation, justement, quand ça va mal, elles me donnent de la force, en fait. Je me dis, si elles ont pu le faire, moi aussi je peux le faire. Et puis, le fait qu'elles partagent aussi des moments de leur vie de tous les jours fait que je me projette dans le métier. Et franchement, c'est quelque chose d'excellent. Et moi, à ma petite échelle, j'essaie de documenter un peu ma formation à travers mon compte Instagram personnel. Donc, je poste quelques photos des jalons clés de la formation à l'ENAC. Et depuis que je fais ça, j'ai eu quelques j'ai quelques filles qui m'ont contacté sur Instagram, que je connaissais pas du tout, et qui me disent oui, moi aussi j'ai envie de faire ça, explique-nous comment on fait pour le concours, quel genre de questions on pose. Et franchement, ça fait ma journée quand je reçois ce genre de message. Je me dis, c'est génial si je peux inspirer des petites filles et même des garçons. Hein. J'ai eu aussi des messages de garçons, de lycéens. Et je me dis, mais moi, honnêtement, j'aurais vraiment aimé, à leur âge, avoir quelqu'un qui me guide, qui me dit comment ça se passe concrètement et qui me conseille. C'est quelque chose que j'ai pas eu et que je voudrais vraiment donner à la future génération. Donc ouais, j'essaie à mon niveau avec mon petit compte Instagram pour l'instant. Après, je pense qu'il faut aussi penser à faire des choses encore plus concrètes hors réseaux sociaux. Peut-être monter des associations pour parler, faire des présentations dans des écoles, parler aux jeunes directement, leur présenter le métier. Et voilà, pour qu'ils aient des représentations, comme tu dis, c'est vraiment très important. Et ce que tu fais aussi, toi, par exemple, ce podcast, c'est génial. C'est aussi une façon de rapprocher le métier aux lycéens, aux enfants, s'ils écoutent, ou même les gens comme moi qui font des choses différentes, mais qui pensent à faire des reconversions. C'est hyper important de cette exposition-là, que ce soit par les réseaux sociaux ou les médias, la pop culture. En plus des réseaux plus classiques comme les associations et les écoles.
Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. On ne peut pas s'imaginer faire quelque chose alors qu'on ne sait même pas que ça existe ou qu'on ne sait même pas que c'est accessible, en fait. Donc, c'est très intéressant de t'avoir ici en face de moi pour parler de tout ça. Et si tu parlais de personnes qui pouvaient te donner des conseils, est-ce que toi, tu aurais un conseil? Alors, forcément un conseil assez général pour quelqu'un qui voudrait faire comme toi, éventuellement une reconversion, éventuellement un Marocain ou une Marocaine.
Mmh. Bah, le premier conseil, c'est que c'est quelque chose de dur, de difficile. On n'a pas parlé des moments difficiles, mais du coup, c'est peut-être l'occasion. Je pense qu'il faut rester concentré et ne pas perdre de vue l'objectif final parce que la formation n'est pas toute rose. Il y a des moments de pur bonheur, bien sûr, mais il y a aussi d'autres moments où ça va moins bien. Il y a des tests qu'on peut rater, il y a des échecs. Mais il faut se dire qu'en fait, ces échecs-là font partie intégrante du processus d'apprentissage, en fait. Il faut pas s'arrêter au premier obstacle, finalement. Et je pense que ce que j'ai pu voir avec mes camarades dans le cadre de cette formation, c'est que le côté psychologique est super important. Il faut vraiment avoir un mental d'acier parce que le fait de faire de mauvais vols parfois peut miner la personne et ça impacte sa performance pour les vols d'après et ça peut devenir un engrenage assez vicieux finalement si on s'extirpe pas de cette roue finalement, tu vois, de se dire OK, j'ai fait un mauvais vol mais c'est pas la fin du monde, c'est normal. Ça dépend de plein de choses en fait, il suffit que tu aies mal dormi ou que pour X ou Y raison, ta performance n'est pas au top et tu fais un mauvais vol ou une mauvaise prestation lors d'un test, mais ça doit pas rester ça doit pas rester le fin mot de l'histoire. Il faut vraiment rester concentré sur l'objectif et se dire c'est pas grave, j'ai fait un mauvais vol ou bien j'ai échoué, et ben je l'aurai la prochaine fois. C'est comme ça qu'on apprend. Et se dire que voilà, en fait il faut normaliser l'échec parce que finalement la réussite c'est vraiment une succession d'échecs qu'on a surmonté quelque part, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête si on veut faire une reconversion ou bien si on veut envisager ce métier, parce que c'est pas tout rose, c'est pas que des nuages, du cloud surfing, il y a de tout.
Même si je passe un très bon moment avec toi, une discussion très intéressante, il nous faut nous rapprocher de la fin de cet épisode. Et ma dernière question pour toi serait, quelle est la suite pour toi? Qu'est-ce qui va se passer après la formation à l'ENAC? Bon, déjà, tu n'as pas tout à fait fini encore la formation à l'ENAC. Et ensuite, bon, cet épisode est enregistré pendant la période Covid-19, où l'industrie du transport aérien est quand même assez impactée. À quoi va ressembler la suite pour toi? Est-ce que tu sais?
La suite immédiate est assez claire, c'est la MCC, Multi-Crew Coordination à l'ENAC, au centre de Toulouse. Après ça, c'est un peu le flou, pour être honnête. On n'a pas encore de visibilité par rapport à notre compagnie aérienne qui est en crise à cause du Covid. Elle est en pleine réflexion de restructuration et donc on n'a pas encore une idée sur la date à laquelle on intégrerait la QT. Donc on verra bien. Donc nous on attend en fait une communication de la compagnie. Comme je te disais, ça me plairait bien de m'inscrire dans un aéroclub en attendant. Donc, quand je rentrerai au Maroc, je vais probablement m'inscrire à l'aéroclub de Rabat en attendant de voir ce qu'on fait avec la Royal Air Maroc. Après, si on nous dit vous allez attendre, si on nous dit vous êtes prévu dans un an ou dans deux ans, je sais pas, là, on pourra s'organiser. Peut-être qu'enfin je pourrais faire FI en attendant une formation d'instructeur, essayer de monter mes heures. Mais c'est assez flou. Finalement, ça dépend vraiment de la compagnie aérienne et comment elle compte nous intégrer.
Donc là, la suite immédiate, la MCC, la qualification de travail en équipage sur simulateur seulement. Et ensuite, peut-être une qualification d'instructeur en attendant de savoir quand est-ce que la Royal Air Maroc aura besoin de vous pour piloter donc un Boeing 737, c'est ça ton
oui.
L'avion qui t'attend?
C'est ça, exactement.
Bien, c'est une belle machine, j'espère pour toi que ça arrivera le plus tôt possible.
J'espère, Inch'Allah.
Mais bien, je te remercie beaucoup pour ton temps.
Bah, merci à toi. Merci
d'avoir accepté de faire cet épisode avec nous. Et j'espère que tes propos vont pouvoir inspirer d'autres personnes à faire la même chose que toi, éventuellement oser une reconversion pour ceux qui y réfléchissent. Et puis ensuite, pour ceux qui potentiellement passent des moments difficiles en formation, comme tu disais, garder l'objectif en vue et puis profiter des échecs pour apprendre. Merci beaucoup, Saloua, pour tous ces enseignements et pour nous avoir raconté ton parcours.
Merci beaucoup à toi.
J'espère que cet épisode de l'expérience Shiban t'a plu. Pour le numéro suivant, on se retrouve dans 15 jours sur ta plateforme de streaming audio préférée. D'ici là, nous t'attendons sur Facebook et Instagram sous le nom d'utilisateur XP Shiban. N'hésite pas à nous faire un retour d'expérience sur cet épisode. Et si tu apprécies notre travail, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts et surtout de partager les épisodes avec tes amis. Enfin, pour une discussion plus approfondie, envoie-nous un mail à l'adresse contact@xp-shiban.com. C'était l'expérience Shiban. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans deux semaines.